Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on est ensemble toujours pour ce 10h midi et passons au débat à présent avec aujourd'hui Frédéric Dabi, bonjour, directeur général de l'IFOP. Bravo Frédéric, puisque vous êtes devenu le patron. Georges Kuzmanovic, bonjour, président de République Souveraine. Bonjour à vous, vous étiez déjà président et vous le restez. Merci. Virginie Le Guay, bonjour. Virginie, journaliste, éditorialiste, bonjour. Politique, bonjour à vous. Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Évidemment, une actualité...
Bonjour.
Une actualité tragique avec ce qui s'est passé à Avignon, ce policier abattu par un délinquant qui, alors qu'ils étaient en intervention. On se repose la question qu'on se posait déjà hier et on continue. Est-ce qu'on a perdu face aux trafiquants? Aujourd'hui, il y a une très très forte émotion face à la mort de ce policier. On va parler des élections régionales. Alors, est-ce que ce sont des élections régionales ou des élections présidentielles? On peut se poser la question. Et ce matin, Sophie de Menton a tweeté est-ce que les ministres n'ont pas autre chose à faire que d'être candidats, puisqu'il y en a de plus en plus qui songent à se présenter. Et puis, la France Insoumise qui propose une taxe exceptionnelle pour les profiteurs de crise. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Pascal Bataille, un coup de cœur.
Oui, coup de cœur pour la décision des États-Unis et Biden ne cesse de me réjouir ces temps-ci. Ils ont annoncé hier, donc, les États-Unis qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins. Évidemment, comme d'habitude, Macron est totalement à contre-temps et à contre-sens sur ce dossier, comme sur bien d'autres. La France s'est déclarée à voter contre il y a quelque temps déjà et persiste dans cette position qu'on pourra peut-être et malheureusement un jour assimiler à un crime contre l'humanité. Mais voilà, au moins, en tout cas, l'exemple des États-Unis me semble extrêmement positif, oui. Parce qu'il fera peut-être contagion, boule de neige, il faut l'espérer en tout cas, ça a été salué par l'OMS derrière, oui. Et on peut espérer peut-être que ça fasse un peu bouger les lignes sur ce dossier.
Oui, mais espérons que ça, effectivement, la levée des brevets résoudrait un certain nombre de problèmes. Georges Kuzmanovic, votre coup de cœur ou coup de gueule est en lien avec ce que vient de dire Pascal.
Eh bien, exactement, c'est en lien avec Pascal, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pascal. Moi, c'était un coup de gueule qui est le pendant au coup de cœur par rapport à Joe Biden, c'est le coup de gueule sur les laboratoires pharmaceutiques qui, eux, freinent des cas de fer et surtout font feu de tout bois de leurs avocats internationaux et de leurs lobbyistes pour, bien évidemment, ne pas lever ces brevets et faire un maximum de bénéfices. De facto sur le dos des citoyens. Mais il faut bien comprendre que là, il ne s'agit pas juste d'un conflit. Est-ce que c'est le droit privé d'une entreprise, oui. Ce qui peut se discuter en temps normal. On est en temps de guerre. C'est comme l'a rappelé monsieur le président Emmanuel Macron en Saint-Jean-Clémenceau. Nous sommes dans une situation de pandémie mondiale. Et le problème, c'est que si les gens, les citoyens, les humains sur la planète ne sont pas vaccinés assez rapidement, on est face à un virus qui mute considérablement et de se retrouver avec des variants sur lesquels les vaccins ne seront plus opérants. Et donc de faire rebelote à l'infini. Donc je ne sais pas si ce sera un crime contre l'humanité, mais ce sera déjà un crime sévère contre l'économie, parce que ça veut dire préserver quelques profits. Pour quel coût global? Parce qu'on voyait l'état de notre économie, le désespoir des Français et de bien des citoyens dans le monde face à cette pandémie. Donc il faut libérer les brevets. Et je suis, moi et République Souveraine, nous sommes pour la création d'un pôle du médicament national français qui fasse concurrence aux Big Pharma, aux industriels, et produise des brevets détenus par la nation et en cas de besoin que nous soyons capables de produire des vaccins et des médicaments.
Oui, je ne comprends pas parce qu'on n'a pas été foutu de faire des vaccins. Enfin,
pardon, justement, on n'est pas foutu, mais il faudrait le faire. Il faudrait qu'on ait un pôle du médicament, ça n'existe pas.
Oui, mais Sanofi, Pasteur, ils ont travaillé dessus, ils n'ont pas réussi. Donc qu'est-ce que ça changerait d'avoir un machin de plus
Sanofi travaille. Non, ce n'est pas un machin de plus. Ils ont réussi aux États-Unis parce qu'il faut quand même rappeler que Biden agit très bien, mais Trump, lui, a quand même financé massivement ses laboratoires, ce que nous n'avons pas fait.
Oui, bien sûr.
Donc c'est la manière américaine de le faire. Notre manière, ce serait d'avoir, je pense, un pôle du médicament qui développe nos propres brevets, nos propres vaccins pour nous protéger.
Qu'est-ce que vous en pensez ? les uns et les autres. Pascal, vous qui étiez sur ce sujet-là. Ah, on ne vous entend pas. Alors, Virginie, non. Virginie, non, on a un problème de liaison.
Ouais. Non, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, Frédéric. Mais c'est vrai que quand on a vu à quel point le Covid a accéléré, a été un catalyseur de tendance à l'œuvre, c'est vrai que le Made in France, la relocalisation des productions stratégiques, c'est une vraie attente. C'est vrai que on a publié notre enquête en début de semaine sur l'image de la France un an d'élection présidentielle. La première représentation, c'est la France qui est en déclin. Et quand on interroge plus qualitativement les Français, l'affaire du vaccin, notre incapacité, alors qu'on s'appelle Pasteur, qu'on s'appelle Sanofi, de développer un vaccin, a beaucoup fait sur ce sentiment d'une France qui tombait. Donc votre proposition, je ne pourrais pas...
Et les masques avant et les
respirateurs. Oui, tout à fait. Ça crée une sorte de récit d'une France, d'un décalage entre le « nous sommes en guerre » et un juin 40 sanitaire que le pays a connu, avec ses soignants mal équipés, ses hôpitaux vétustes et cette incapacité même à produire du paracétamol. Je n'ai pas d'avis particulier, mais ça a beaucoup joué sur ces représentations assez terribles à 9 mois d'un scrutin où traditionnellement on célèbre la France et on dit que la France n'est pas le problème, mais la France est la solution.
Oui. Virginie ?
Est-ce que vous m'entendez mieux ?
Oui, on vous entend, absolument.
Alors, je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur Joe Biden et que je partage totalement ce nouveau président qui avait été présenté pendant la campagne présidentielle comme vieux, fatigué, extrêmement lent à la décision, s'avère être un excellent président qui, effectivement, montre qu'il est moderne, rapide, qu'il réagit très vite et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et je souligne la différence non seulement d'âge et de génération entre notre président qui a peut-être quasiment 40 ans de moins que lui et Joe Biden. Joe Biden semble un président moderne, là où Emmanuel Macron ne cesse de nous surprendre par la vieillerie de ses décisions, notamment sur l'histoire des vaccins. Et je suis très surprise de ce décalage parce que Emmanuel Macron s'annonçait en 2017 comme un président transgressif qui irait vraiment prendre les décisions là où ceux qui l'avaient précédé ne les avaient pas prises. Et je trouve qu'il se révèle, somme toute, au bout de 4 ans, très semblable à ses prédécesseurs.
Pascal ?
La sclérose n'attend pas le nombre des années.
Non, absolument. Pascal ?
Non, malheureusement. Oui, effectivement, je souscris complètement à ce que dit Virginie Louguet sur Joe Biden. J'ai déjà dans cette émission, Valérie, souligné un certain nombre de décisions et le vieillard cacochime, dragueur de petites filles qu'on décrivait, en tout cas pour l'instant, dans les 100 et quelques premiers jours de son mandat, montrer qu'il en allait sous le pied et bien plus malheureusement effectivement que notre président. Pour revenir à l'histoire des laboratoires pharmaceutiques, voilà, je pense moi qu'il faut absolument de toute urgence, je sais que c'est une procédure assez longue, mais peut-être qu'on peut prendre des mesures radicales et lever certains blocages quand on est dans une situation aussi exceptionnelle et dramatique que celle que nous vivons depuis 15 mois. Il faut absolument lever ces brevets, il faut que tout le monde puisse profiter de la vaccination pour autant que ce soit évidemment la panacée. On sait que ça ne résoudra pas tout, mais c'est quand même un moyen tout à fait utile et nécessaire pour lutter contre la propagation du virus. C'est, comme le disait Georges, non seulement une action humaniste et humanitaire, mais c'est aussi une action très cyniquement nécessaire pour nous, pour nos économies. Donc, parce que ça ne sert à rien de se vacciner, nous, si le virus continue de se propager dans des pays moins favorisés qui n'ont pas les moyens de payer les vaccins. Ouais. Donc, c'est une décision d'urgence. Il est infiniment déplorable que, encore une fois, sur ce sujet-là, la France soit à contresens et que Macron n'ait rien compris.
Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Un auditeur me dit oui, il y avait un truc qui s'appelle l'IHU à Marseille, qui était supposé travailler sur l'infectiologie. Il y avait l'Institut Pasteur qui aurait dû sortir des choses.
Mais on a même fait un vaccin à Saint-Herblain. Ouais. On a fait un vaccin. Mais comme ce n'est pas validé par l'Union européenne, ce sont les Britanniques qui ont acheté 60 millions de doses. On est vraiment chez les fous, en fait.
Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste, politique, Georges Kuzmanovitch, président de République Souveraine, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. On va revenir sur les élections régionales avec donc de plus en plus de ministres qui veulent s'engager. Dernière en date, Éric Dupond-Moretti qui songe à se présenter dans les Hauts-de-France. Faut-il une taxe exceptionnelle sur les profiteurs de crise? C'est ce que demande la République, LFI, la France Insoumise. Ils ne sont pas encore République. Et évidemment, on va revenir... Pardon ?
Ils sont 6e République.
Voilà, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Avignon, ce délinquant qui a abattu un policier qui tentait de l'interpeller lors d'une intervention pour essayer d'arrêter ces trafiquants de drogue. C'est un véritable fléau. Je voyais ce matin un reportage où on nous parlait de Montpellier, où le président de la République était allé en fanfare sur un point de deal. Le point de deal, il a bougé de 10 mètres. Enfin bref, on va y revenir. On continue notre tour de table. Je voudrais juste répondre à nos auditeurs qui disent « Ouais, les Seychelles, ils reconfinent alors que la population est vaccinée. » Visiblement, la question, ce qui serait en cause, ce serait le vaccin chinois. Ils ont tous été vaccinés avec le vaccin Sinopharm. Et visiblement, il y a aussi la question d'un variant potentiel. Donc, on n'en sait pas tellement plus. Mais moi, je reste sur mon exemple d'Israël qui, pour l'instant, continue de bien fonctionner. Frédéric, coup de projecteur.
Oui, coup de projecteur sur un peu de publicité maison pour une enquête IFOP dévoilée hier pour le MEDEF sur les territoires et la cohésion territoriale en France. Alors, à moins d'un an d'élection présidentielle, c'est toujours intéressant de voir que la question des inégalités territoriales va être au centre de la prochaine campagne. 80% des Français ont le sentiment que la France est un pays qui recouvre des inégalités au sein de ses territoires. Territoire avec une sorte de mutation. Pendant longtemps, les inégalités étaient concentrées pour les Français en banlieue. Maintenant, ces inégalités, cette France délaissée, cette France à deux vitesses, c'est plus des communes rurales. Ce n'est pas rien, hein. Valérie, c'est 24% des Français qui habitent en commune rurale, même si une enquête récente de l'IFOP pour les familles rurales a montré qu'il y avait des ruralités. Il y a des ruralités qui vont très bien et d'autres qui sont en plus grande difficulté. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que ces inégalités territoriales, on a le sentiment qu'elles augmentent très très fortement, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place ces dernières années. Mais aussi, les Français sont assez en même temps. On a un attachement énorme vis-à-vis de son propre territoire. Il est jugé à 70% comme un territoire attractif. Et quand on interroge les Français sur qu'est-ce qui rend le territoire attractif et qu'est-ce qui le protège des inégalités, la question, et ça sera aussi une question importante pour la présidentielle, des services publics émerge très fortement. Les services publics, c'est les forces de sécurité qui arrivent en tête, un petit peu derrière la création d'emplois, l'accès aux soins et à la santé, l'aide au commerce de proximité. On a de plus en plus une vision extensive des services publics. Ce n'est plus clivé gauche-droite. C'est vraiment terminé l'image de la droite qui disait les services publics, c'est inutile, les fonctionnaires sont des fainéants, c'est absolument terminé. Et deux, c'est l'idée que même un commerce, un distributeur automatique de billets bancaires, c'est vu comme un service public, car c'est un service au public. Et les reculs des services publics, c'est vu comme un recul de l'État et un désengagement de l'État. Ça sera intéressant, je pense, dans la prochaine campagne à venir. Et quand on interroge les Français sur qui va favoriser le plus la lutte contre les inégalités dans ces différents territoires, sans surprise, mais ça va mieux en l'objectivant, le maire arrive très nettement en tête, 40 points d'avance devant le gouvernement.
Mais des inégalités territoriales qui se creusent et puis des services publics qui disparaissent quand on a de la famille dans les régions où vous qui vivez auditeur de Sud Radio, on voit bien que trouver un médecin relève parfois du parcours du combattant, que les épiceries disparaissent.
Retirer de l'argent dans un distributeur automatique de billets, parfois il y a 30 km à faire.
Absolument. Virginie, vous n'aimez pas votre...
C'est exactement... Si je peux revenir sur ce que vient de dire Frédéric, c'est exactement ce que sont venus crier et clamer les Gilets jaunes pendant des mois, tout au long des samedis où ils venaient, parfois d'ailleurs pour la première fois à Paris. Ils disaient que non seulement les services de l'État n'étaient plus présents, mais qu'ils se sentaient totalement abandonnés. Et ils témoignaient de cette France à deux vitesses qui ne cesse de se creuser entre la première et la deuxième ou la troisième ou la quatrième vitesse. Et il me semble me souvenir, et là je parle sous le contrôle de Frédéric, que déjà le vote de 2017 avait traduit cette différence d'appréciation politique. Il y avait d'un côté le vote pour Emmanuel Macron qui venait en général de la France qui va bien, de la mondialisation heureuse, des habitants qui ne se sentaient pas concernés par cette déclassification d'une partie des territoires, et de l'autre côté ceux qui avaient choisi Marine Le Pen et qui eux disaient tous on est totalement laissés de côté, personne ne s'occupe de nous parce qu'on est les petits, on est les sans grade et on est les pauvres. Mmh. Et il me semble que cette inégalité-là ne cesse de se creuser. Absolument. Et contrairement à ce que dit Frédéric, je ne sais pas ce qui a été fait ces dernières années pour améliorer ces inégalités. Moi, il me semble qu'elles sont de plus en plus aiguës.
Ouais. Virginie, vous, c'est un coup de gueule, on l'a déjà fait, mais on ne s'en lasse pas, je vous écoute.
Oui, j'en ai presque assez de le dire et le redire, mais je veux revenir contre les déclarations d'un ami Hidalgo qui a dit l'autre jour d'un air presque fier qu'avec elle, Paris était plus beau. Non, Paris est plus moche, Paris est moins bien entretenu, Paris est laissé à l'abandon aussi, le mobilier urbain n'est pas beau, les gens jettent tout dans la rue parce qu'ils s'aperçoivent qu'une ville négligée, bah après tout, pourquoi soi-même devrions-nous faire attention à quelque chose dont le maire ne s'occupe pas bien? Ça se voit que Paris n'est plus traité avec considération, les feux rouges cassés sont scotchés, il y a des plots partout. Tous les habitants qui veulent bien ou qui sont soucieux de leur environnement le notent et le remarquent. Et je regrette que Mme Hidalgo s'enferme dans le déni et qu'elle ne considère pas que cette campagne Saccage Paris soit une campagne réelle. Il suffit de voir les photos que les habitants postent. Ce ne sont que des photos que je pourrais moi aussi poster. Et je regrette qu'elle laisse cette ville qui est si belle totalement à l'abandon, quoi qu'elle en dise, quoi qu'elle prétende.
Oui, et ce hashtag Saccage Paris a eu la vertu de nous ouvrir aussi les yeux, même si on le remarquait. Moi, j'ai pris une photo ce matin en arrivant d'un trottoir raccommodé avec des bouts de goudron, de cette ignoble chose qu'elle a appelée la végétalisation des pieds d'arbres, où on a des bouts de bois cassés. Et alors moi, ça rejoint un coup de gueule, mais qui concerne Paris également. C'est la construction de ce grand palais éphémère. Donc, il faut savoir pour nos auditeurs que le grand palais, qui est un de nos monuments, est en en travaux. Et donc, il a fallu construire, je ne sais pas pourquoi, un grand palais éphémère qui a coûté 40 millions d'euros. 40 millions d'euros au cœur du Champ de Mars, c'est-à-dire entre la Tour Eiffel et les Invalides. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire? Alors, cet argent va être payé par la réunion des musées, mais il y a tout de même 350 000 euros qui vont rester à la charge de la ville, une redevance annuelle. Est-ce qu'on n'a pas d'autres lieux dans Paris, d'autres lieux pour recevoir des grandes exposition. Moi, je m'interroge sur ces choix de splendeur par certains aspects et d'abandon par d'autres. Voilà, c'était entre autres. Non, Frédéric,
pas de
commentaire là-dessus. Mais
Paris est tellement pouilleux, il faut quand même le rappeler, qu'il y a des cellules de soutien psychologique dans les ambassades et les consulats du Japon et de Chine.
Non.
Mais si. Moi, c'est la honte pour un Parisien, mais il y a depuis des années, il y a des associations de Japonais qui participent au nettoyage de Paris.
Ouais.
Parce qu'ils trouvent que c'est une ville, la ville lumière, une ville magnifique, mais ils nous mettent la honte. Et Madame Hidalgo a fait de Paris, la circulation, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe. Oui. C'est laid, c'est moche.
Je me permettrais de rappeler quand même qu'il y a eu des élections municipales il y a moins d'un an et les Parisiens auraient pu être majoritaires à rejeter cette action.
Ils ont
et
été je très vois peu qu'elle nombreux
a... oui,
à voter pour elle.
Ce qui est important, c'est d'aller voter et je vois qu'elle a été réélue très très largement. Mais c'est un petit contrepoint par rapport à ce que dit Virginie, qui n'est bien sûr pas inexacte. Voilà, moi je suis... j'aime énormément Paris et moi je vois plutôt des choses très très belles, mais il y a aussi effectivement des catastrophes.
Frédéric, l'avenue de l'Opéra, c'est devenu un truc.
L'avenue de l'Opéra, c'est la seule avenue de Paris où il n'y a pas d'arbres depuis toujours. Donc,
non, c'est pas ça, c'est les plots jaunes, les machins en béton.
Mais ce sont des choses qui, à mon avis, sont assez provisoires. Mais bon, je suis.
Pas du tout, ça fait des années.
Bon,
Valérie, si je peux me permettre.
Sortons
de Paris sur Frédéric, sur ce que tu as dit sur la France périurbaine. La France périurbaine de Guy Louis, c'est ce qu'a décrit Godard en parlant du Brexit dans Les gens d'ici et Les gens de nulle part. C'est ce qui est décrit dans le vote Trump-Biden aux États-Unis. Et évidemment, il y a ce problème des services publics, mais il y a aussi le travail. Ouais. Et il faut se rendre compte que la désindustrialisation touche les gens d'ici. Non. Et il y a des villes qui sont ravagées du seul fait qu'une usine de 300, 400, 500 000 personnes ferme.
Bridgestone à Béthune, comment ça va se passer pour la belle ville de Béthune ?
Voilà.
Qui est une très belle ville. J'espère qu'on sera d'accord là-dessus.
Oui, absolument.
Donc il faut réindustrialiser notre pays.
Un coup de gueule d'un de nos auditeurs, une fois n'est pas coutume, c'est à propos de la Colombie. Personne ne parle de la Colombie. Or, en ce moment, il y a des manifestations extrêmement violentes, une répression qui est meurtrière. Hier, il y a eu plus de 25 morts ces derniers jours, et le président mate cette rébellion par la répression, par une répression qui est absolument épouvantable, 850 blessés. Et c'est vrai que on s'intéresse pas à grand chose. Et pareil pour la Birmanie, je le rappelle souvent, la Birmanie, on n'en parle pas. On s'intéresse assez peu à l'étranger en France. Pourtant, ce sont des pays.
C'est pas vrai. On s'intéresse quand c'est le Venezuela. La Russie et la Chine, avec beaucoup d'acuité.
Ce qui est très bien.
Mais ce sont des pays.
Oui, c'est très bien, mais la Colombie est attachée à côté du Venezuela. Et quand il y avait des problèmes au Venezuela, que les gens partaient en Colombie, c'était la Colombie accueille. Puis maintenant,
on n'en parle plus.
C'est le précaré des États-Unis.
Allez voir ce qui s'y passe. Allez voir aussi en Birmanie où des gens sont emprisonnés pour avoir manifesté. Là, on peut parler peut-être de dictature militaire, en effet.
Allez, et les Rohingyas qui sont massacrés toujours.
Oui, aussi. Allez, on se retrouve dans un petit instant. On va revenir sur ce qui s'est passé hier à Avignon, un policier abattu alors qu'il était en train d'intervenir sur un point de deal. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble sur Sud Radio avec vous jusqu'à midi avec Virginie Le Guay, Frédéric Dabi, Pascal Bataille et Georges Kuzmanovic. Hier, en fin de journée à Avignon, un policier envoyé avec son équipage sur les lieux d'un attroupement autour d'un point de deal a été tué par balle par l'un de ses délinquants. Les autres policiers présents ont riposté, ils ne l'ont pas interpellé. Ce matin, un homme a été arrêté. La lutte contre les trafics de stupéfiants partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats, c'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort. Je rappelle, depuis lundi, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de trafic de drogue, de deal, avec Gérald Darmanin qui a dit « la peur va changer de camp, ce sont les dealers qui vont avoir peur, nous avons déclaré la guerre aux dealers ». Je ne vois pas très bien ce qui a changé. Je rappelais ce voyage à Montpellier, ce déplacement d'Emmanuel Macron pour aller dire on affronte les dealers. Reportage ce matin sur une chaîne où on voyait que les dealers avaient simplement changé de point de deal de 50 mètres. Que peut-on faire et jusqu'où on va accepter cette... Peut-être un mot, Frédéric, sur ce qui est de l'insécurité dans vos études.
Oui, notre enquête récente IFOP fiduciale pour Sud Radio qui montre que l'insécurité, la délinquance s'installe comme l'une des thématiques principales de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez que fin août, on avait posé notre enquête annuelle sur les priorités des Français. La délinquance, après cet été meurtrier, avait gagné 26 points. Ça n'arrive jamais que 6 mois à l'autre, on ait une telle progression. Ce qui m'avait marqué, c'était d'une part que le clivage gauche-droite était toujours là, mais il s'était beaucoup réduit. Il n'y a que sur les sympathisants RN et LR qui sont absolument en fusion sur cette question. Deuxièmement, et ça fait le lien avec notre débat, quand on interrogeait les Français sur comment résoudre les questions en termes de délinquance, ils étaient moins sur une logique quantitative, c'est-à-dire augmenter les forces de l'ordre, mais plus sur la question de l'insuffisance de réponse pénale. Et c'est vrai que cette pré-campagne présidentielle, qui est sur une logique papivoise, on va avoir un fait divers par jour, voilà.
Il n'est pas inventé, fait divers.
Je n'ai absolument pas dit. J'ai dit ça va être sur une campagne papivoise, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé également en 2002, où la sécurité était devenu le premier enjeu de la campagne. Ça va être le sujet central, et c'est le sujet sur lequel les Français ont le sentiment que les tweets ne suffisent plus, qu'il y a un décalage entre les mots et la réalité. Et là, l'impuissance du politique, du pouvoir, mais également des oppositions qui sont jugées aussi peu crédibles et absolument patentes. Et tout ça, l'impuissance politique, ça fabrique de l'abstention.
Oui. Virginie ?
ça fabrique de l'abstention et de la colère.
De la colère, oui,
et
bien
moi,
sûr.
je crains énormément que ce qui s'est passé à Avignon et qui, je le rappelle, succède à énormément d'événements extrêmement rapprochés depuis quelques semaines concernant les policiers, la façon dont ils sont accueillis dans certains endroits, tabassés, les pièges qu'on leur tend. Je ne sais pas, rappelons-nous, Blais, Sarcelles, Champigny et récemment Rambouillet. Je crains que l'accumulation de ces... Ce qui est bien plus grave même que des faits divers, parce que je rappelle que ce qui s'est passé à Avignon était une simple opération policière et que le dealer, parce que je crois que c'en est un, a simplement sorti son arme, tiré sur le policier et est parti en trottinette comme si de rien n'était. Et là, il y a quand même un tournant qui est franchi. C'est-à-dire que maintenant, les dealers, qui probablement d'ailleurs ont été formés depuis des années, et même s'ils sont encore jeunes, sont extrêmement endurcis et aguerris, se promènent avec des armes dans leurs poches, tuent des policiers comme si de rien n'était et repartent comme si de rien n'était. Et moi, j'entendais ce matin un policier dire « Eh ben, nous ne cessons d'enterrer les nôtres ». Et je crois que les Français qui assistent à tout ça et qui parfois en sont d'ailleurs les victimes dans leur ville, dans leurs proches, dans leur famille, à un an de la présidentielle, je trouve ça extrêmement dangereux de voir le décalage entre ce qu'a fait la classe politique d'hier, mais ce que fait la classe politique d'aujourd'hui. Je rappelle que ce matin, Emmanuel Macron était en train d'inaugurer un vaccinodrome, ce qui me paraît éloigné des préoccupations des Français, malgré tout quand même, aujourd'hui. Et je crois que le décalage entre cet exécutif-là, qui finalement ne s'est pas vraiment emparé du sujet, sauf récemment, et a passé tout le début du quinquennat à ne jurer que par l'économie, les résultats économiques, et puis très vite, il a été rattrapé par la réalité. Mais je crains que le manque d'énergie qu'il a à régler ces questions ne provoque une présidentielle sous tension et des votes extrêmement durs.
Oui. Je voulais juste préciser un tout petit mot.
J'entends très bien ce que dit Virginie. Et c'est vrai que le terme de fait divers n'est pas tout à fait, propre. Puisque ce qui a frappé les Français durant cet été meurtrier, et ça continue aujourd'hui, c'est que les victimes de ces actes de délinquance sont les Français de tous les jours et les personnes dépositaires de l'autorité de l'État. Les policiers, ce fameux, ce pauvre chauffeur de bus à Bayonne au mois de juillet dernier, le maire de Signes, je crois que c'était dans le Var. Voilà, c'est ça qui aussi frappe fortement l'opinion, qui émeut et qui réactive cette idée d'impuissance de l'État.
Pascal Bataille.
Oui, désolé, j'ai été coupé, j'ai pas entendu ce qu'ont dit tous les autres intervenants.
Mais allez-y, oui.
Mais effectivement, on est dans une défaillance totale de l'état de droit se pose la question des moyens, tout simplement des moyens à mettre en œuvre. J'ai prononcé un mot politiquement très incorrect et très tabou dans notre pays, c'est l'armée. On a nécessité de reprendre, l'État doit reprendre possession de ces territoires qui sont aujourd'hui livrés en pâture à toute cette délinquance. On voit que la police n'a pas ni les ressources humaines, ni les moyens, ou peut-être même la formation pour intervenir. Alors, on se cache derrière son petit doigt en disant que l'armée n'a pas à intervenir à l'intérieur de nos frontières et est là pour nous défendre contre l'ennemi extérieur. Que je sache, on fait appel à l'armée pour lutter contre le terrorisme qui, on le sait bien, vient à 80 ou 75% de gens qui sont des Français et qui sont donc des ennemis de l'intérieur. Donc pourquoi, effectivement, on continue à se masquer derrière ce tabou de l'armée pour reprendre, que l'État reprenne possession de ces territoires et qu'ensuite on puisse refaire fonctionner normalement la République partout sur le territoire français avec une police qui ferait ensuite son travail comme elle le doit et comme elle le pourrait.
Oui, et alors je vais vous faire écouter un extrait du journal de Radio-Québec hier. C'est Gilles Gansman qui nous l'a fait écouter ce matin dans le zapping. Les policiers au Québec ont décidé de ne plus intervenir sur des gens racisés, ça veut dire sur des gens noirs ou qui ne sont pas blancs. Écoutez ce qu'ils disent.
Être policier en 2021, c'est être constamment sous la loupe.
Je vais vous dire bien franchement, j'en arrête plus des gens racisés.
On a peur de se faire accuser de profilage racial.
Il y
n'y a personne qui veut briser sa carrière pour une intervention.
C'est rendu difficile. On a beau vouloir travailler puis faire la job qu'on nous a appris à faire, mais on n'est plus capable de la faire comme on le devrait.
Ce qu'il raconte, c'est le phénomène du désengagement policier, surnommé « depolicing » aux États-Unis, qui gagnerait la police de Montréal. Une forme de refus du policier de remplir son devoir envers la population dans certaines situations.
Voilà, donc là, ça partait sur la question des racisés, mais ça va plus loin. C'est-à-dire qu'ils
moi,
ne veulent pas...
Moi, je ne parlais pas de... Je ne parlais absolument pas de...
Non, non,
j'ai bien compris.
J'ai bien compris, sauf qu'on peut, l'étendre, et visiblement, le reportage se termine par dans certaines situations. Et on comprend que les policiers n'aient pas forcément envie d'aller au casse-pipe quand on voit ce qui s'est passé hier. Jean, je voulais réagir à ce que disait Pascal Bataille, je vous ai vu faire non quand il parlait de l'armée.
Je voulais réagir à d'autres. Enfin, à ça, je vais le faire. Moi, d'abord, je pense qu'on est tous en soutien aux policiers, à la famille du policier et à ses proches. C'est sûr que ça n'a pas calmé la colère policière qui était déjà très forte avant la crise de la Covid. On n'a pas répondu à leurs demandes, à leurs problèmes. Non seulement certains sont tués, mais beaucoup se suicident. Il faut le rappeler que c'est une profession où malheureusement il y a énormément de suicides. Et ça montre bien l'état de déliquescence du pays. C'est les infirmiers, c'est les soignants, c'est les policiers, ce sont les paysans, les agriculteurs, toutes ces catégories sociales qui se suicident, c'est un très mauvais signe sur l'état de notre pays. Alors moi je pense qu'il faudrait être et de gauche et de droite sur cette question et cesser de se renvoyer la balle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une réponse de gauche qui est, il faut des services publics, il faut qu'il y ait une école républicaine, il faut qu'il y ait des services publics pour récupérer les quartiers, et il faut aussi une réponse de droite qui est, plus classiquement, celle de la sécurité et de la répression. Mais cela implique, comme vous l'avez dit Frédéric, que la justice fasse son travail, et malheureusement, la justice ne fait pas son travail parce qu'elle n'a pas envie de faire son travail, parce qu'elle n'a pas de moyens. La justice est financée deux fois moins qu'en Allemagne.
Il y a eu quand même 8% de plus au budget de la justice.
Oui, mais on est toujours deux fois moins qu'en Allemagne. On n'a pas assez de juges, on n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez de greffiers. Et donc les juges se retrouvent avec des dossiers et renvoient toute une série de jeunes en particulier, sortent, ils font 10, 20 crimes avant de commencer à être sanctionnés. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse comme effet sur ne pas sanctionner à l'école, pas sanctionner à la maison, pas sanctionner par la justice? Bon. À un moment donné, on ne prend pas au sérieux le pays dans lequel on est. Et pour répondre à Pascal, il doit y avoir une séparation nette. C'est une doctrine très ancienne entre l'armée qui s'occupe des affaires extérieures et la police. On a les moyens en France avec nos services de police, notre gendarmerie et la justice, si on a la volonté politique de régler ces problèmes. Mais le problème, c'est le manque de volonté politique. Et quand on regarde aux États-Unis, ce qui se passe...
Ou d'impuissance, non ?
De volonté politique. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une police militarisée. On a l'intervention régulière de l'armée, la garde nationale, dans des émeutes qui tournent à des scènes de guérilla civile, à Détroit, à Watts, à Los Angeles. Tous les 20 ans, ça arrive aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça règle ? Rien. Il faut surtout qu'on ne copie pas ni cette société racialiste, ni la manière de le traiter, ni l'usage militaire, ni la militarisation de la police, ça n'a aucun effet.
On y revient dans un instant, on aura Nadia en ligne avec nous, pardon de vous avoir fait attendre, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Pascal Bataille, Virginie Leguet, Georges Kusmanovitch et Frédéric Dabi. On a Nadia en ligne avec nous, bonjour Nadia.
Bonjour,
vous vouliez intervenir, on parlait évidemment de ce policier qui a été abattu hier alors qu'il était en intervention autour d'un point de deal, abattu par un délinquant qui s'est enfui avec une trottinette qui a peut-être été interpellé ce matin, on en saura un peu plus. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Tout d'abord, bien sûr, c'est horrible d'en arriver là, d'avoir des morts pour certainement des trafics de cannabis, mais surtout c'est que les méthodes qui sont employés pour lutter contre le trafic de drogue me semble totalement archaïque. Il y a des gens comme Monsieur Estrosi qui pratiquent l'expulsion de toute personne impliquée dans les trafics de drogue dans ces quartiers qui sont gangrenés par la drogue. Et je pense qu'il faut plus aller vers des méthodes comme ça efficaces que d'envoyer des policiers courir après des dealers. Ça me paraît tout à fait moyenâgeux comme méthode. On peut aussi faire de la lutte contre le blanchiment de l'argent, la drogue. Apparemment, il y a 2000 milliards qui circulent, qui sont le produit de ces trafics. Je ne comprends pas comment ces 2000 milliards peuvent passer inaperçus. Donc, je trouve qu'au niveau de la politique générale de sécurité On est vraiment resté dans les années 50. On a aussi, dans le maintien de l'ordre, des pays qui utilisent des drones avec des systèmes où on envoie des marquages sur les personnes qui troublent l'ordre public pour pouvoir les intercepter. Enfin, je trouve qu'on est vraiment...
Oui, mais c'est ce que disait Georges Kuzmanovic tout à l'heure. C'est la volonté politique, la politique.
Exactement.
Et puis, oui, non, mais tout à fait. C'est,
et pour rajouter à ce que disait madame, le vrai problème, c'est le traitement de la délinquance,
merci, Nadia.
La délinquance juvénile. Ouais. Et Nadia, je pense que ce qu'elle propose, certaines choses sont intéressantes, mais ce qu'il faut faire, c'est avoir, je pense, plus de centres fermés pour les jeunes délinquants. Et que la sanction vienne plus tôt et qu'il y ait une forme de rééducation sociale à vivre en société.
Tout à l'heure, on évoquait, Pascal, vous avez réagi, je vous ai passé ce son qui nous vient du Québec avec des policiers qui ne veulent plus intervenir. Vous disiez, moi, je ne parlais pas de race ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, Libération, quand même, Libération publie une interview d'Assa Traoré. Tant que la France n'assumera pas ce qu'il y a du racisme dans sa police, on tournera en rond. Et la une de Libé hier tire de LBD les images qui accablent la police. La police, c'est pas des policiers, c'est la police. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, décrédibilisent totalement l'autorité, décrédibilisent totalement la police. Je veux dire, qui est à Assa
Traoré ? Mais tant qu'on reste dans le débat, entre guillemets, philosophique ou politique, et que on ne rentre pas vraiment dans le concret, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Moi, je souscris à 1000% à ce qu'a dit Georges tout à l'heure. Je suis évidemment d'accord sur le principe de cette doctrine. J'en connais les fondements et les motifs, bien évidemment. Ce que je constate, comme tout le monde, c'est que aujourd'hui, la police, elle n'intervient plus, elle ne peut plus intervenir. C'est même pas qu'elle ne veut plus, c'est qu'elle ne peut plus intervenir quand ils se font attaquer au mortier des voitures de police avec des gens qui sont à peine armés, qui se font attaquer au mortier. Comment voulez-vous effectivement qu'on agisse ? Or, bien sûr qu'il faut agir sur l'éducation, bien sûr qu'il faut agir sur la justice, bien sûr qu'il faut agir sur la mixité de ces zones, etc. Mais ça, c'est du préventif, c'est du moyen et long terme, c'est de la remise en forme de la République, de la citoyenneté, du service public, etc. Dans ces quartiers, il n'empêche qu'il y a une urgence, il y a aujourd'hui une infection grave dont souffrent les populations qui habitent ces quartiers, mais dont souffre aussi notre République, parce qu'il n'est pas normal dans un pays comme la France qu'il y ait des endroits où l'état de droit n'est pas respecté. Donc je ne détiens évidemment pas la vérité en parlant de l'armée. Il faut en tout cas une intervention parallèlement à ces choses qu'il faut mettre en œuvre et dont parlait Georges. Il faut aussi récupérer ces quartiers, parce qu'autrement, c'est une gangrène qu'on laisse se développer. Et plus on attend, plus il sera difficile de le faire.
Bah, on a déjà attendu longtemps.
Si je peux ajouter quelque chose, ça fait 30 ans que ça se prépare et 30 ans que ça dure. La gauche et la droite ont progressivement baissé les bras. Malgré des déclarations parfois très impressionnantes et très martiales sur le terrain, ils n'ont pas fait peut-être ce qu'ils auraient dû faire. Et la police, et nous avons encore de la chance d'avoir une police très investie, extrêmement courageuse et qui ne démissionne jamais, mais la police se sent absolument pas aidée, que ce soit par la justice ou par les pouvoirs publics. Elle n'est pas assez nombreuse, elle n'est pas probablement souvent pas assez formée. Dans les quartiers où elle va, effectivement, il y a une désertification des services publics, mais aussi des éducateurs. Je rappelle que la police de proximité a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron n'est pas responsable de cette situation, mais il hérite d'une situation contre laquelle il ne fait pas grand-chose. Je rappelle que ce qui s'est passé à Avignon, il y a eu des centaines et des centaines de vidéos sur les réseaux sociaux des habitants d'Avignon depuis des mois qui alertaient sur ce qui se passait au pied de leurs magasins, au pied de leurs immeubles, au pied de leurs habitations.
Pourquoi, moi je pose la question à tous les intervenants, parce que je n'ai pas la réponse. Pourquoi effectivement cette défaillance depuis 30 ans, 40 ans? Pourquoi a-t-on laissé? Est-ce qu'il y a effectivement un tabou sur cette question de sécurité dont Georges rappelait à juste titre tout à l'heure, et je le disais aussi l'autre jour ici même, que c'est une notion qui est une notion de gauche aussi, parce que c'est juste une notion républicaine. Jean-Pierre Chevènement a toujours été très vigilant sur ces sujets-là, par exemple. Donc, il ne faut pas que la gauche ait honte de parler de sécurité, parce que qui dit sécurité dit aussi liberté et dit aussi possibilité pour chaque citoyen de vivre normalement dans son pays. Pourquoi on a laissé faire, selon vous, Virginie?
Moi, j'ai une réponse à cette question.
Alors attendez, Virginie, puis après Georges. Ouais.
Puisque la question m'est posée, je vais essayer d'y répondre, mais très rapidement, Georges, vous avez ma promesse. Moi, je dirais qu'il y a eu une forme de lâchage progressif de la classe politique qui s'est dit ne mettons pas d'huile sur le feu, vous savez, selon la fameuse phrase que les enseignants utilisaient beaucoup, pas de vague. Et il y a eu des accommodements dans certaines villes entre les élus et les habitants de certains quartiers, les élus préférant les habitants de certains, laissant les habitants de certains quartiers s'organiser entre eux pour ne pas avoir d'ennui et peut-être même pour espérer en avoir un gain électoral. Il y a eu quand même au fil des années, une forme d'abandon de ce que c'était que l'autorité, de ce que doit incarner une classe politique, au profit d'un accommodement qui n'est pas du tout raisonnable, parce qu'on voit les tournures que ça prend, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui vivent dans certains quartiers, et ce ne sont plus certains quartiers, ce sont de plus en plus de nombreux quartiers, de plus en plus importants, se sentent totalement tranquilles chez eux parce qu'ils ont organisé la vie de façon totalement cloisonnée et qu'ils ne se sentent plus dans le même pays que nous.
Mmh. Ouais, alors Georges.
Mais moi, je pense que la raison, Pascal, c'est qu'il y a un délitement de la nation qui date de 30-40 ans et qui est dû à la trahison des élites, en particulier celles qui nous gouvernent. Et qui n'ont plus de projet national, qui n'ont plus de projet pour ce pays, parce qu'ils ont fait des transferts de souveraineté massifs avec les traités de libre-échange et avec l'Union européenne, et que ces traités de libre-échange font qu'on a de moins en moins de travail en France. Et je rappelle que la sécurité, les policiers font leur boulot, ils vont sur le terrain, mais les policiers, comme les militaires, ne règlent pas les problèmes sociaux. Si les gens n'ont pas de travail, quelles que soient leurs origines, à un moment donné, ils font des conneries. Ou ils se révoltent, ou alors ils dealent, ou ils s'en sortent, comme vous dites, en s'organisant dans leur quartier avec des systèmes, soit des confréries islamistes, soit des groupes mafieux. Mais c'est ça qui se produit toujours. Donc il faut du travail, et pour faire du travail, il faut de la réindustrialisation, il faut avoir un projet pour ce pays, comme disait De Gaulle, il faut avoir du protection économique, et c'est un tout cette réponse. Mais évidemment, Pascal a raison, il faut une riposte là, concrète, immédiate, qui n'est plus faite. Et une dernière chose par rapport à ce que vous avez dit sur Madame Traoré, c'est une honte, parce que c'est elle qui est raciste, c'est elle qui est racialiste, parce que la gendarmerie, puisque les trois gendarmes qui ont arrêté son frère, qui est avec quasiment tous ses autres frères criminels, était noir de peau. Et la gendarmerie n'en a jamais parlé, parce que ça n'est pas son problème. Son problème, c'est que ce sont des gendarmes et qu'ils ne s'intéressent pas à la couleur de peau. Et donc, non, nous ne sommes pas au Canada, nous ne sommes pas aux États-Unis. Madame Traoré et tous les racialistes qui trouvent que c'est fantastique de juger, de voir la société sous cet angle-là, devraient tous prendre un billet d'avion ou de bateau et aller vivre aux États-Unis, et ils s'y sentiront extrêmement moins bien qu'en France.
Oui, sachant que cette pensée woke que Georges vient de décrire, il faut bien dire les choses, elle est archi-minoritaire en France. Sauf dans des segments particuliers, notamment chez les moins de 25 ans. Vous avez vu toute une série d'enquêtes de l'IFOP, notamment celle pour Marianne qu'on avait appelée fracture sociétale, où là, c'est vrai que cette assignation à résidence par la religion, de par la couleur de peau, devient un système de pensée, une manière d'appréhender la réalité en France. Mais en dehors de ces segments, c'est extrêmement marginal. Et quand on demande aux Français si la notion de violence policière est une réalité ou correspond à des faits marginaux, deux tiers d'entre eux sont sur l'ITEM. Cela correspond à des faits marginaux, voire inexistants.
Mais là, le gouvernement se retrouve quand même face à une problématique qu'il va falloir... ça fait longtemps qu'elle existe, cette problématique des dealers. Donc, hormis les coups de menton...
Ah oui, c'est un autre sujet, mais... L'impuissance politique, c'est ça,
Valérie. Hormis les coups de menton de Gérald Darmanin, de dire on va interdire les mortiers au mois de novembre, et des mortiers, il y en a toujours. De dire la peur va changer de côté, la peur, elle n'a pas changé de côté.
On va terroriser les terroristes, on va se débarrasser de la racaille.
Le constat, il est là sur ce qu'on fait comment pour
avancer. Ce qui met en colère les Français, c'est ce que vous dites, Georges, c'est ce récit depuis 30-40 ans, même s'il y a des ministres de l'Intérieur qui ont quand même marqué positivement les Français, à tort ou à raison, c'est pas mal de le dire, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, c'était une enquête IFOP fiduciale pour Paris Match sur le ministre de l'Intérieur préféré. Il y a ce sentiment d'impuissance qui mine la confiance vis-à-vis des politiques. Ça provoque, comme disait Virginie, de la colère, mais moi je m'intéresse plus à la dimension électorale. N'oublions pas, on va et ça ne fait ça ne fait aucun débat. Il y a des risques terribles que le 20 juin prochain, on ait le premier parti de France qui soit le parti des abstentionnistes, comme aux européennes, comme aux municipales et comme aux législatives.
On va en reparler dans un instant. On marque une pause et justement, on va revenir sur ces élections régionales avec les différents psychodrames. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble jusqu'à midi et on va parler donc de ces élections régionales. Alors, est-ce que ce sont des élections régionales ou des élections, des élections présidentielles? On peut se poser la question. Donc il y a eu l'affaire Muselier, alliance, pas alliance. Enfin, j'avoue qu'on n'a pas compris grand-chose. Vous avez compris quelque chose, Frédéric? Vous nous le direz dans un petit instant. Et puis hier, on apprend qu'Éric Dupond-Moretti sera présent sur la liste LREM dans les Hauts-de-France. Peut-être même tête de liste, non? Il y a une petite discussion. Marc Fesneau en Centre-Val de Loire, Geneviève Darrieussecq en Aquitaine, Cluzel peut-être en PACA, Darmanin au départemental dans le Nord. Je répète le tweet de Sophie de Menton, ils n'ont pas autre chose à faire, nos ministres, en ce moment, que d'être sur des listes.
Bon, le tweet de Sophie
est... C'est quoi? C'est juste pour être... C'est pour faire de la pub? C'est des têtes non, de gondole? Alors...
Voilà, je vais les défendre. On a tendance à dire quand les ministres sont pas sur le terrain, qu'ils sont déconnectés des réalités, une manière de se confronter au suffrage universel, c'est pas quelque chose de gênant. Et on a connu des gouvernements, hein, je pense au gouvernement Fillon-Sarkozy en 2010, où quasiment tout le gouvernement était parti aux élections et on sait comment ça s'est terminé, ou il y a un peu plus avant, le gouvernement Jospin au municipal de 2001. Non, ce qui est très très intéressant, c'est cette place spécifique des élections régionales, puisque c'est le dernier scrutin avant l'élection présidentielle, et certes, la présidentielle est le scrutin matrice de la Ve République, un scrutin à part, mais il s'inscrit dans un continuum, dans une continuité d'élections, et c'est vrai que quand on regarde la région des Hauts-de-France, entre Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Gérald Darmanin, on sent une petite odeur d'élection présidentielle. Voilà, maintenant, moi, ce qui me frappe surtout, et je reviens sur ma marotte, dans notre baromètre fiducial pour Sud Radio et Paris Match, dans les conversations des Français, oui. 24% d'entre eux ont parlé des élections régionales. Traditionnellement, à un mois et demi du vote, on est plutôt sur du 40-45% pour des élections européennes. Mmh. Donc ça annonce une abstention absolument folle. Par rapport à notre débat également, Éric Dupond-Moretti en tête de liste, quel signal envoyé quand on n'arrête pas de dire qu'il y a un souci d'incarnation et de politique pénale.
Oui. Quel est le sujet principal de conversation des Français?
C'était le déconfinement, et c'est ce qui explique la petite remontée et les questions de sécurité. Rambouillet, Sarah Halimi, l'affaire du Véry-Châtillon, on voit que c'est le seul sujet qui arrive à sortir de ce magma Covid qui arrive à émerger, ce sont des questions sécuritaires.
Et demain, l'emploi?
Bien sûr.
Et demain, l'emploi? Une question, pourquoi des membres du gouvernement se présentent-ils en dépit du non-cumul des mandats?
Alors, ceux qui se présentent, ils ont le droit de se présenter, mais ils ne pourront pas, si Geneviève Darrieussecq gagne la région Nouvelle-Aquitaine, Marc Fesneau, dans les sondages, est plutôt bien placé, il devra quitter le gouvernement.
D'accord, donc c'est une bonne réponse. Ils ont le droit de Virginie faire. Le Guay, vous qui êtes une fine observatrice de la politique depuis de nombreuses années, ça vous dit quoi?
Vous voulez dire la préparation des élections régionales?
Oui, et puis le surgissement de Dupond-Moretti. Donc, est-ce que c'est aussi panique à bord à La République En Marche?
Moi, ce qui me frappe, c'est l'investissement extrêmement fort de La République En Marche dans ces élections, qu'ils veuillent que La République En Marche, qui pour l'instant ressemble plutôt à une coquille vide, veuille présenter des candidats aux élections régionales et qui sait avoir enfin des élus de terrain, ça me paraît pas une mauvaise idée. Mais que, comme par hasard, les offensives de La République En Marche se situent en Haute-France, là où Xavier Bertrand, qui lui-même dit qu'il sera candidat à la présidentielle, s'il gagne les élections régionales et que, comme par hasard, La République En Marche investisse tout d'un coup, c'est-à-dire quand même peu de temps avant, à la place du candidat actuel, Laurent Pietraszewski, investisse Éric Dupond-Moretti, me paraît hautement politicien. Et l'opération qui a été menée en PACA, elle est également, bien sûr, que le fait que ce rapprochement, qui finalement ne sera pas aussi rapproché que ce que La République En Marche voulait, mais que ce rapprochement était annoncé par Jean Castex, qui a pris la peine de dire dans le journal du dimanche que la liste de La République En Marche se désisterait au profit de celle de Renaud Muselier, me paraît être une manœuvre politicienne. Enfin, c'est vraiment le baiser qui tue, mais une manœuvre politicienne qui ne cherche qu'à finir de déstabiliser une droite largement déstabilisée par la présence d'un certain nombre de ses anciens responsables au sein du gouvernement depuis 4 ans et largement déstabilisée par une partie de la fuite par la fuite d'une partie des électeurs de droite déjà vers Emmanuel Macron et déjà aussi vers Marine Le Pen. Donc je trouve que La République En Marche là se livre à une offensive extrêmement ferme, mais tout simplement pour nettoyer le terrain dans la perspective de la présidentielle à laquelle Emmanuel Macron, c'est un secret de Polichinelle, sera candidat.
Pascal Bataille.
Oui, moi je dirais rien de très nouveau sous le soleil. En même temps, les ministres candidats, ça date pas d'aujourd'hui, même si on pourrait effectivement le déplorer parce que plus que jamais ils ont autre chose à faire, nous semble-t-il. Et s'ils s'engagent sur un ministère, c'est pas pour aller démissionner quelques mois plus tard pour occuper un poste dans un conseil régional.
Plus pérenne,
voilà, on voit bien ici que on est dans le casting de télé-réalité pour faire effectivement du buzz, etc. Je pense que malheureusement le résultat n'en sera tristement qu'une abstention encore plus importante que d'habitude, parce que les Français ne sont de moins en moins dupes, pour autant qu'ils l'aient été, que vous tous médias décryptez ça évidemment extrêmement facilement, et que on se demande même pourquoi les politiques et nos gouvernants continuent de penser que ils peuvent faire des petits tours de passe-passe comme ça sans que ce soit décrypté dans la seconde.
Oui.
Donc voilà que notre ami Emmanuel Macron s'amuse à essayer de mettre la zizanie au sein des Républicains avec ses manœuvres en PACA par exemple. C'est pas nouveau. Sarkozy était allé chercher Kouchner, Éric Besson ou Martin Hirsch à l'époque. Mais effectivement, que ça puisse encore, qu'il puisse encore penser qu'on va marcher dans la combine et que tout le monde va pas effectivement se rendre compte du stratagème et malheureusement s'en désintéresser encore un peu plus de cette politique qui devrait au contraire nous mobiliser et nous mettre tous dans les bureaux de vote pour ces régionales comme pour la présidentielle. Voilà, le résultat, c'est malheureusement une désaffection de plus en plus importante et que les instituts notent aussi, comme le disait Frédéric tout à l'heure.
Oui, enfin, on rappelle quand même que la République En Marche voulait faire de la politique autrement, s'affranchir de la politique politicienne, et que ce serait, on allait voir ce qu'on allait voir. Alors, ce qu'on voit, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant.
Le nouveau monde.
Le nouveau monde ressemble.
Allez, je serai un petit peu moins sévère que vous. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis ces 30 dernières années, ces 40 dernières années? On va fêter, commémorer, ça dépendra les personnes, ou même célébrer les 40 ans du 10 mai 81. 81, c'est une arrivée de nouveaux parlementaires à l'Assemblée nationale. On les appelait les barbus car il y avait beaucoup d'instituteurs et il y a eu du bon et du mauvais. 2017, c'est un renouvellement de l'Assemblée nationale absolument jamais vu. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs de casting que je ne nommerai pas, mais on l'a vu y compris dans la rubrique des faits divers. Mais il y a eu aussi des personnes qui venaient du terrain, qui n'étaient pas des professionnels de la politique et qui ont, je dirais, un peu apporté un vent nouveau. Maintenant, ce qui est vrai, l'échec patent, et vous le disiez tout à l'heure, Georges, ou peut-être Virginie, je m'en excuse, de LREM, c'est cette incapacité à s'implanter localement. C'est quand on regarde les motivations de vote au municipal et qui sont maintenant les mêmes qu'aux élections régionales, c'est le bilan, le projet, l'incarnation, trois dimensions sur lesquelles En Marche est extrêmement faible.
Ouais.
Pour les candidats, pour les ministres candidat, c'est la jurisprudence Buzyn et Le Maire. Madame Buzyn était candidate alors qu'elle a été ministre de la Santé au moment où explosait la crise de la Covid. Bon, aller être candidate à la mairie de Paris à ce moment-là, c'est tout à fait intéressant comme vision de la responsabilité politique et de l'exécutif. Monsieur Le Maire, lui, alors que nous sommes dans une crise totale, qu'aux États-Unis, que ce soit Trump ou Biden, on en est à 7000 milliards de relance, et que nous, en Europe, on n'arrive pas, on n'a même pas commencé, je crois qu'aucun centime n'est arrivé, des 750 milliards, 10 fois moins. Lui, il écrit des romans pendant ce temps. Bon, voilà, ce sont des gens pas très sérieux par rapport aux enjeux et à ce à quoi on fait face. Et puis, c'est ce que dit Frédéric, enfin, c'est une élection où il n'y aura personne, parce que les gens sont en déconfinement. D'ailleurs, on verra comment ça va se passer dans 5 semaines, parce qu'avec, est-ce que le variant indien va monter, est-ce que le brésilien va monter, est-ce qu'on va tenir le coup. Ça se trouve, on ne pourra pas avoir d'élection, ça sera peut-être le même pataquès que pour les municipales, on verra. En tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est régional, on parle de quasiment tout, sauf des prérogatives des régions.
Oui. Les régions s'occupent des programmes,
des lycées,
des uns et des autres,
des routes, et tout un tas de choses. Mais là, on parle, par exemple, M. Bardella, en France, en Île-de-France, bah, c'est M. Bardella, la sécurité. Ce qui n'est pas du tout un sujet de compétence.
Les transports, à la limite, mais c'est vrai que c'est très léger.
Non, mais... Et donc, ça veut dire... La question, c'est par rapport à la question que vous posiez. C'est bien ça le sujet.
Oui,
c'est une préparation à l'élection,
présidentielle.
Présidentielle et législative, qui sont les élections centrales de sortie de Covid et de lutte contre la crise économique dans laquelle on va être.
Alors, info de dernière minute, la vaccination sera ouverte à tous à partir du mercredi 12 mai si des doses sont disponibles la veille pour le lendemain, annonce Emmanuel Macron.
Tout est dans le si.
Voilà, si. Tout est dans le si, effectivement, et on a envie de dire, pas tout ça pour ça, mais ça fait un moment qu'on en parle, le ministre de la Santé
et que ça se fait sous le manteau, puisqu'il y a des médecins qui, et ils ont raison de le faire, qui préviennent leur patientèle lorsqu'il leur reste quelques doses sur les bras.
Avec une...
Heureusement, c'est ce qu'ils faisaient en Israël.
Bien sûr.
Ouais, en l'organisant.
Oui, il y avait une application en Israël.
On parlait du trafic de drogue là aussi, c'est une information. La salle de consommation, ce matin, Emmanuel Grégoire, l'adjoint à la mairie de Paris, est en visite dans un centre de crack. Et un auditeur dit la salle de consommation d'héroïne et de crack a surtout contribué à faire de Paris le pôle européen des consommateurs de drogue dure et 50% des usagers sont russophones. Les autorités géorgiennes sont ravies que la France organise et finance leur accueil. Donc c'est
On voit ce qui se passe dans le 19e arrondissement, où des citoyens se mettent à riposter, parce que il n'y a pas de décision publique pour riposter contre les dealers.
Donc voilà, je pense que les salles de crack, c'est important.
Les policiers disent eux-mêmes qu'à Stalingrad, des gens viennent de l'Europe régulièrement pour s'approvisionner, tellement c'est facile, tellement c'est simple, tellement c'est une plaque tournante.
Absolument. Fais pas de parallèle avec les salles de shoot qui sont importantes aussi, mais il faudrait peut-être qu'elles soient gérées un peu différemment. Voilà, c'est fini. Merci, merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain pour d'autres infos. À demain.
Au revoir.
Merci, au revoir.